Vous écoutez
RMC.
RMC, Estelle Midi.
Le zapping RMC.
Et on démarre avec un extrait des Grandes Gueules ce matin sur RMC. Faut-il sanctionner plus durement les parents de mineurs délinquants? Le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, prépare un projet de loi qui durcirait les sanctions pénales pour les parents qui se soustraient à leurs obligations légales. Mais pour Axel, auditeur RMC, il faut aussi et surtout responsabiliser les enfants.
Je dirais qu'il faut sanctionner les parents, oui. Mais il faut sanctionner les enfants aussi, il faut les responsabiliser. Parce qu'aujourd'hui, ils n'ont rien du tout.
Ils sont jugés comme des mineurs, donc effectivement, ils prennent des peines un peu plus faibles.
Des peines
ou pas du tout.
Ou pas du tout. Dirait, c'est plus souvent pas du tout qu'ils prennent des peines, on dirait. Je suis parent, j'ai deux enfants. Je suis confronté avec mon grand qui a des problèmes depuis que je suis divorcé. Donc je ne suis pas célibataire. Moi, j'ai la maman, elle s'en fout royalement.
Ah oui, c'est carrément.
Mon fils qui a fait des conneries. Aujourd'hui, j'ai payé. Sauf que il faut que mon fils il en subisse les conséquences aussi. Donc, j'ai contacté le maire de ma commune pour qu'il balaye les rues.
Donc, il veut bien le maire ? Est-ce que le maire veut bien ? Parce qu'il est capable de vous dire que non.
Il n'a pas le droit.
Voilà.
Il n'a pas le droit.
Voilà.
Emmanuel Dancourt, est-ce qu'il faut être plus sévère avec les parents de mineurs délinquants ?
Le problème, c'est que les peines actuelles ne sont pas appliquées. Donc, à quoi ça sert d'augmenter les peines, de passer de 2 ans à 3 ans de prison et jusqu'à, je crois que c'est 35 000 euros d'amende, si je me trompe pas. J'ai un doute. Si déjà ce qui est en place n'est pas appliqué. Et le problème, en fait, c'est la justice. C'est-à-dire que quand un mineur fait une énorme bêtise, la justice, elle est très très longue et la réaction, elle n'est pas immédiate. Il y a un premier rendez-vous, 6 mois après, il y a un deuxième rendez-vous et puis 6 mois après, encore éventuellement, une application de la sanction. Et tout ça, c'est pas du tout pédagogique. Tu vois, il rencontre deux fois le juge pour les enfants qui est déjà débordé, donc un seul rendez-vous pourrait peut-être suffire. Et la sanction est tellement pas immédiate que ça, il n'y a pas le côté pédagogique de la sanction. Et puis de l'autre côté, donc t'as des jeunes qui sont dans un monde qui devient hyper violent, hyper sexualisé aussi, et tout ça grâce aux réseaux sociaux notamment, mais pas que. Et puis de l'autre côté, t'as des parents, mais est-ce qu'ils sont défaillants les parents ou est-ce qu'ils sont dépassés? Et on a ôté aussi tous les éducateurs de rue quasiment qui faisaient un travail incroyable. Donc là, il y a rien qui se tient, quoi. Il y a rien qui est cohérent. Il y a rien qui. Commençons par appliquer déjà les peines qui existent. Commençons par remettre des éducateurs dans la rue. Commençons par expliquer aux ados et les faire payer eux. Et peut-être que si vraiment le parent est défaillant. S'il y a défaillance du parent, la peine, elle existe déjà. Si le parent est dépassé, il y a peut-être besoin d'aide.
Daniel Riolo, vous êtes d'accord avec ça ?
Tout ce qui est éducateur, tout ce qui est les tentatives pédagogiques, depuis des années, malheureusement, le constat est terrible. Il y a plus de choses qui échouent qui réussissent. L'histoire récente que j'ai lue sur l'éducateur qui était un ancien boxeur qui avait réussi, malheureusement j'ai oublié ville en banlieue, où il officiait, où il avait créé des associations et tout. Je crois qu'il est dans le coma aujourd'hui, parce qu'au bout d'un moment, les trafiquants ont estimé que son travail les empêchait, eux, de bosser. La violence, elle a atteint un tel degré que même quand tu mets certains jeunes en face de toi et que tu essaies de communiquer, ils ne comprennent pas ce que tu dis.
Mais il aurait fallu les prendre au début, parce que ça commence en maternelle, quand même.
Ils sont quasiment en rupture de civilisation, de la façon que tu vas avoir d'échanger par les mots. Ils ne vont comprendre que la violence. Donc, soit la réplique, elle sera très forte.
À la base, c'est un manque d'éducation.
Daniel, si tu les avais pris dans la rue tout petit,
donc c'est les parents ne sont plus là, parce qu'ils sont dépassés ou démissionnaires, ou...
D'où les éducateurs de rue, en fait.
Dès le départ. Aujourd'hui, il ne va y avoir qu'un seul truc qui pourra réduire ça, ce sera la force. La force, ce sera la chose qu'on n'a jamais essayé, à savoir de responsabiliser les parents, mais qui, de toute façon, pour la plupart, seront insolvables. Donc, quand tu les menaceras d'amende, ils ne pourront pas te payer. Donc, tu seras face à ça comme difficulté. Deux, ça et maladie. Malheureusement, les lois, il y en a, mais c'est l'application des peines qui pose souci. Donc, il faudra aller au-dessus, construire des centres spécialisés, des prisons spécialisées. On en revient toujours à ça. Est-ce qu'il y en a assez ? Alors déjà que pour les adultes, il y en a pas assez. Pour les mineurs, ça va être compliqué. Mais on est face à un problème qui est beaucoup plus grand qu'on veut bien le penser. Vraiment.
Thierry Moreau, est-ce que ça va dans le bon sens, ce que veut Éric Dupond-Moretti ?
Je pense qu'il faut vraiment faire de la dentelle et du sur-mesure parce qu'on va, on a face à nous deux types de populations. Il y a des familles effectivement qui sont dépassées, débordées, des familles, des mamans solo pour la plupart, etc. Où là, il y a vraiment besoin d'aide. Et puis il y a des familles où je dirais que les enfants se comportent comme les parents. Il y a eu un récent fait divers où l'expédition punitive, on a appris après l'enquête de police que c'était le père qui avait organisé l'expédition punitive avec son enfant mineur. Donc ça veut dire que là, il y a un effet d'entraînement et là-dessus, pour le coup, effectivement, il faut que tout le monde soit condamné. Je ne serais pas si radical que toi sur le fait que ça ne fonctionne pas, les éducateurs. Il y a quand même eu, et là, beaucoup de gens s'accordent, y compris beaucoup de syndicats de policiers, sur le fait que l'absence de la suppression de la police de proximité il y a quelques années...
Ce n'est pas les éducateurs, les polices de proximité.
Non, mais on a supprimé et les éducateurs et la police de proximité.
Ils avaient une
c'est
partie
ça, le
comme
problème.
Ça très importante de leur travail. Et ça, ça a été un tournant.
Voilà.
On le sait tous aujourd'hui. Et beaucoup de gens, y compris des syndicats policiers, mettent le doigt là-dessus. Je pense qu'il y a aussi cet aspect-là. Mais... Tout le monde met tout le monde dans le même sac, je pense pas. Il faut vraiment faire de la dentelle si on veut supprimer effectivement ou sanctionner les parents des enfants qui sont délinquants.
Charles Matin, ce matin sur RMC, l'État fait-il n'importe quoi en matière de sécurité routière? C'est du jamais vu depuis 10 ans. La mortalité sur les routes au mois de mars est en hausse de 31% par rapport à l'année dernière. Une très mauvaise nouvelle qui est à mettre en rapport avec la fin du retrait de points sur les petits excès de vitesse. Selon Pierre Lagache, il est vice-président de la Ligue contre les violences routières.
Ce qu'on observe, c'est que la dégradation, elle démarre au mois de septembre dernier. Donc depuis 7 mois, nous avons un bilan qui se dégrade au niveau de la sécurité routière. Tous les experts étaient clairs sur ce sujet. Le fait d'assouplir le permis à point est une très mauvaise mesure parce que ça envoie un mauvais signal à la population. Ça veut dire clairement... Nous ne nous occupons plus de la sécurité routière. Il y a eu des propos très clairs du style « il faut arrêter d'emmerder les Français, les Français adorent la bagnole ». Voilà, tous ces signaux, si vous voulez, renvoient à la population le fait que la sécurité routière n'est plus une priorité alors que la situation se dégrade, alors qu'elle reste la première cause de mortalité de nos jeunes.
Thierry Moreau, est-ce qu'on peut dire que c'est finalement la faute de l'État qui a enlevé la suppression de points pour les petits excès de vitesse?
Je pense qu'il y a une vraie responsabilité de l'exécutif et de l'État dans tous ces aspects. Je rappelle que le seul président, et Dieu sait si pourtant il a un bilan qui n'est pas terrible quand on regarde avec l'histoire, le président Chirac a été le seul à s'attaquer vraiment au problème de la sécurité routière de manière... mais massive.
Avec les campagnes de pub.
Avec les campagnes de pub, avec durcissement des lois, etc., etc. Là, aujourd'hui.
Sarkozy aussi avec les radars.
Oui.
Il était ministre de l'Intérieur à l'époque.
C'est vrai.
Un vert, ça va, trois verts, bonjour les dégâts.
En deuxième rang, il y a effectivement en tant que ministre de l'Intérieur. Mais là, on assiste effectivement à ce message qui a été envoyé en disant aux gens, c'est pas grave, les petits excès de vitesse vous enlèvent pas de points. Rappelons quand même que les gens qui perdent leur permis à la suite d'un cumul de petits points, c'est extrêmement rare. C'est
oui, donc c'est pas forcément eux qui créent les accidents mortels, en fait.
Non, je suis d'accord. Mais aujourd'hui, quand vous dites, c'est un signal qu'on envoie. Quand vous dites aux gens, on vous permet d'un petit peu plus et que ça ne vous coûtera qu'une amende, eh ben on pousse. Vous savez très bien quand
un signal d'impunité.
Le bouchon un peu plus loin, eh ben on pousse la tolérance un peu plus loin.
T'es pris à
5 km/h,
t'es pris à 56, 57. Allez, ça ira.
Non, mais d'accord, mais attends, l'amende, elle est quand même de 135 euros. Oui. C'est pas une petite amende, tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est aussi dissuasif. T'as aussi des gens qui ont autant peur de l'amende
le
que du retrait.
Il y a un côté sacré du point, et je pense que plein de gens, l'idée de ne pas perdre de points, ça les a confortés dans le fait qu'ils pouvaient faire des petits excès de vitesse. Et je pense que c'est une catastrophe. Il faut absolument reprendre à bras le corps le problème de la sécurité routière. Il y a des associations comme celle de Yannick Aleno qui travaillent beaucoup dans ce sens. Là, il faut absolument investir là-dessus massivement, des campagnes de prévention, durcissement des sanctions, etc. etc.
Et toujours rappeler que lorsqu'on est pris à 52 ou 53 km par heure en agglomération, c'est parce qu'on était à près de 60.
Voilà, c'est ça.
Oui, c'est ça, parce qu'il y a déjà une marge d'erreur.
Et ceux qui disent qu'ils ont été pris pour 1 km, en fait,
c'est...
non.
Oui, c'est plutôt 6 ou 7. Emmanuel Dancourt, est-ce qu'il faut revenir justement sur cette loi qui vise à ne plus enlever de poids pour les petits excès de vitesse?
Complètement. Ah non, mais moi, je suis complètement sur la ligne de Thierry. Évidemment, de toute façon, les chiffres le prouvent. Hein. C'est juste, on regarde
on
les
pas
chiffres.
Sûr que ce soit ça. Hein.
C'est très mauvais.
Oui, mais on n'est pas sûr que ce soit ça.
Oui.
Enfin, c'est marrant, il y a une corrélation.
Bah, c'est quand même vachement bizarre.
Il y a peut-être une corrélation. Aussi, en tout cas, voilà.
Je suis d'accord avec vous. Peu importe. Il faut que je le fasse. Vous enflammez, là. 52. on peut pas perdre son permis avec avec les petits points. Bah si, de 12 ça va très vite. Ça m'est arrivé de descendre jusqu'à 3.
Sur le nombre de permis annulés, excuse-moi, c'est factuel. Sur le nombre de permis annulés, je crois que c'est une centaine par an qui concerne les petits points.
Bah, c'est normal puisqu'il y a le système qui t'oblige à aller faire le stage à 3 points ou à 4 points. Donc t'engraisses.
Et bien les stages en ce moment machine, sont désertés par les gens.
Des espèces de stages qui servent à rien là où t'es enfermé pendant un week-end.
Non mais c'est d'abord c'est pas le week-end, ça peut être en semaine. Et je peux te dire qu'en ce moment il y a une chute.
Pour la plupart des gens c'est le week-end, ils vont pas poser un jour pour aller suivre ça quand même.
Et les gens les stages sont désemplis actuellement. Écoute, de récupérer les points.
Cette histoire que 52, ça, tous ces radars que tu mets dans la descente pour te choper à 52 et on t'enlève 20 points, c'était absurde. Donc moi, je pense que Darmanin a très bien fait sur ce coup-là d'éviter d'enlever un point.
Quand
t'es
à 51 ou 52. Les morts sur les routes. Et 31%
mais c'est pas ça qui fait un mort sur la route. Arrête un peu de raconter n'importe quoi.
Emmanuel, c'est toi qui raconte n'importe quoi.
Tu vas tout le monde, tu responsabilises tout le monde, tu vois des assassins partout. Arrête un peu, prends ton vélo et puis c'est tout.
Taisez-vous, Emmanuel Dancourt.
Moi, j'avais une question pour Daniel, si c'est prouvé que c'est dû à ça, le taux d'accident...
Ouais, elle est où la preuve?
Et la question, si c'est prouvé, tu serais d'accord pour reculer sur la loi?
Si tu me le prouves, mais c'est pas prouvé.
C'est pas prouvé, toutes les associations routières disent que c'est ça.
Non, c'est pas prouvé du tout.
Non, mais...
Eh ben, moi, dans le doute, tu vois, Daniel, honnêtement, dans le doute, on s'abstient pas.
Les morts,
pas,
c'est celui qui prend de la drogue, c'est l'alcoolo
mais
au volant.
Mais pas que
c'est celui qui roule
la
à
vitesse,
140.
C'est la vitesse.
Mais oui, mais 52, c'est pas de la vitesse là où t'es à 50.
Mais ça peut tuer.
Ça peut tuer 50 km/h dans une ville.
Il y a un gamin qui a été renversé dans un parking, il était pas à 90 à l'heure.
Dans un parking, il était à combien?
Il roulait ou pas?
Donc
il a tué un gamin de 2 ans.
Il y a une limitation dans un parking?
Absolument. Bah oui.
À combien?
Tu roules ou pas?
Bah oui,
tu roules pas. Donc c'est pas 52 au lieu de 50. Plus, ouais. Tu roules ou pas? Donc là, on parle d'un inconscient qui est sur un parking. Il y a un radar dans un parking. Il y a un radar dans le parking.
Daniel,
comment tu fais respecter la limitation de parking?
On ne prend pas le risque. Tu peux tuer un gamin à 30 km/h.
Évidemment, tu
prends pas le risque.
Mais le système, c'est pas
le jour où c'est ton gamin, tu vas voir, tu vas changer d'avis. On ne prend pas le risque.
Mais le risque de quoi?
On a passé une loi. Il se trouve que le taux d'accident a augmenté largement, le taux de mort aussi.
Respecte la loi de Darmanin. Il n'enlève plus les points pour ça, donc voilà, c'est tout. Et la majorité des Français ne veulent plus de ça non plus.
La majorité des Français, quand elle aura perdu son fils ou sa fille dans un accident, elle changera d'avis.
Allez, la petite leçon de morale, on va y aller.
Pardon.
Bon, on va se détendre avec de la sieste. Voilà, avec Apolline Matin ce matin sur RMC.
Valérie, tiens-vous, Daniel.
On n'a pas de spécialiste sur le sujet, chasserait ou machin l'eau.
Mais ça vous ferait du bien. Tiens, une petite sieste au travail, Daniel, ça vous ferait du bien. Alors que dans certains pays comme l'Espagne, la sieste est fortement ancrée dans les habitudes, en France, elle s'installe à petits pas dans les entreprises. Et Charles Magnin nous rappelait ce matin tous les bienfaits de la sieste. Écoutez.
Vive la sieste, Apolline. Sondage américain mené auprès de 1200 employés. Un tiers d'entre eux avouent faire régulièrement la sieste pendant leurs horaires de travail. Il faut dire que les bienfaits de la sieste ont été maintes fois démontrés par la science. Ça compense une dette de sommeil la nuit. Ça rebooste la productivité pour les heures suivantes. En France, la sieste au boulot est loin d'être devenue une habitude, même si de plus en plus d'entreprises installent des salles de repos qui permettent de fermer un peu les yeux. D'ailleurs, dans un sondage mené l'an dernier, 7 Français sur 10 se disaient favorables à la sieste au travail, à une condition, ne pas devoir partir plus tard le soir.
Alors, Daniel, vous faites la sieste, vous ?
Bah moi j'ai
pas assez, je pense.
Moi, comme j'ai des horaires où je travaille le soir, effectivement, il peut m'arriver en fin d'après-midi, une fois que tout est calé, on va dire entre 18 et 19 heures, oui, il peut m'arriver de m'endormir 10 minutes. Ouais.
Mais ça doit être horrible quand tu mets le réveil là à 19h.
Non, mais il faut pas mettre le réveil. Je te parle pas. La sieste, ce qui a un problème, c'est si tu t'endors trop longtemps, genre une heure, tu te réveilles, t'es tout embué, c'est un peu un problème. Mais moi, 10 minutes, ça requinque.
Mais comment tu sais que tu vas dormir 10 minutes?
Après, c'est une habitude que tu prends.
C'est ça. Ouais.
Après, c'est une habitude. Après, il m'arrive pas.
Moi, je me couche pour 10 minutes, je me réveille 9 heures après.
De ne pas le faire, mais si. Mais j'y tiens, ouais. J'aime bien arriver à 18 ou même de 19 à 19-15 par là. Et comme ça, après, je dîne et je peux venir pour l'émission et je suis en forme le soir.
Je vais essayer, mais moi, j'ai trop peur de pas me réveiller.
Mais toi, t'as pas cet horaire-là. Donc.
Non.
Quoi, peut-être en rentrant, je sais pas, à 16h, tu peux faire 16h.
Non, j'ai autre chose à faire, tu peux. Non, impossible. Rémi, toi aussi, tu fais la sieste?
Ouais, mais je le fais moins aujourd'hui, mais je l'ai fait pendant longtemps.
Enfin, c'est pareil avec des horaires. C'est qu'une affaire de rythme. Les Espagnols, quand on dit, ils font ça, mais souvent, ils commencent tôt, ils déjent un peu tard, et après, ils quittent le bureau peut-être vers 20h, parce qu'après, ils dînent à 22. C'est juste une affaire de rythme, de comment organiser ta journée. C'est pas sieste, je fais la sieste de 14h à 17h, je suis un gros flemmard. C'est pas ça, la sieste.
Ça, c'est une grosse sieste.